Et on débute avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Des comptes dans le rouge, mais une hausse des salaires dans les hôpitaux publics, privés et les EHPAD. Le budget de la Sécurité sociale est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il tient compte de la crise sanitaire, mais il manque encore plus d'un milliard d'euros, selon la Fédération hospitalière de France et des soignants de la PHP, pour répondre au manque de personnel notamment.
La crise sanitaire à la une encore à l'étranger, avec plus de 40 000 volontaires dans le monde pour tester les vaccins contre le Covid-19.
Nous irons à la rencontre de ces cobayes au Royaume-Uni. Des critères plus stricts pour approuver tout vaccin aux États-Unis, un grain de sable dans la campagne présidentielle de Donald Trump.
Et oui, il en sera peut-être question ce soir avant un débat télévisé entre les colistiers, le républicain Mike Pence face à la démocrate Kamala Harris.
L'occasion de découvrir une femme en coulisses, Karine Jean-Pierre, ex-conseillère d'Obama, noire, lesbienne et francophone, figure montante du Parti démocrate.
Et puis en Grèce, Catherine, l'heure du verdict a sonné au procès des membres du parti néo-nazi Aube Dorée.
Jugé notamment pour le meurtre d'un rappeur antifasciste, le verdict pourrait aussi déclarer Aube Dorée comme une organisation criminelle.
Et puis dans quelques instants, la question du jour, crise économique, qui sont les nouveaux pauvres? Je poserai la question à Manuel Demers, il est directeur des études à la Fondation Abbé Pierre.
C'est un budget de crise et en crise qui est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Avec plus de 44 milliards d'euros de déficit, le projet de loi de finances pour la sécurité sociale en 2021 prévoit un budget en hausse pour l'assurance maladie et de revalorisation salariale de 183 euros par mois dans les hôpitaux publics, privés et les EHPAD. Mais le compte n'y est toujours pas pour les membres du collectif Interhôpitaux créé il y a un an, car les pénuries de personnel perdurent, constate Anne Gervais, hépatologue à la PHP.
Il y a un vrai problème, bien sûr qu'ils ont mis de l'argent, mais cette augmentation est complètement absorbée par les revalorisations salariales. En fait, il ne reste rien pour le quotidien, pour les médicaments qui sont plus chers, pour le jardinage, pour le chauffage, pour tout ce qui va monter dans l'année, y compris les cohortes de patients qui sont toujours plus nombreuses. Donc on est un peu loin du quoi qu'il en coûte, même si les chiffres sont très grands, c'est vrai. Les chiffres sont forts, les milliards c'est beaucoup, mais on a une pénibilité au travail qui va s'aggravant et qui fait d'autant plus fuir les soignants. Et vous payerez autant que vous voulez, très cher, des soignants, même si on arrivait à la moyenne européenne et on n'y est pas, on ne va pas garder des soignants qui ne sont pas heureux du travail qu'ils font. Finalement, dans le Covid, c'est horrible à dire, mais on se sentait utile et faisons du mieux qu'on pouvait avec l'aide forte de nos directions. Nos administrations, cette fois-ci, elles nous ont soutenus largement, vraiment. Là, à nouveau, on se retrouve depuis le mois de juin, le retour à la normale avec un apostrophe, dans une situation où il faut pleurer pour obtenir ce dont on a besoin quand on nous répond, quand on répond à nos mails. Donc les gens là, ils s'en vont. J'ai des collègues qui s'en vont. Le jour où les infirmières se sentiront autrement que comme des pions qu'on n'écoute pas, peut-être qu'elles resteront.
Anne Gervais, hépatologue à la PHP, elle répondait à Marie Viennot. En présentation également au Conseil des ministres, la création d'une cinquième branche de la Sécu dédiée à la perte d'autonomie pour les personnes âgées et les personnes handicapées. La voici donc reconnue comme un risque social à part entière. Un conseil présidé par Emmanuel Macron avant d'aller cet après-midi constater les dégâts des intempéries dans les Alpes-Maritimes. Il y a près de 40 000 volontaires dans le monde pour se faire inoculer le Covid-19. Des personnes qui veulent ainsi aider à la découverte rapide d'un vaccin. Ces tests sur des humains suscitent des remous au sein de la communauté scientifique. Transmettre volontairement le coronavirus pose évidemment des questions éthiques. Pour l'heure, aucun pays ne l'a encore autorisé. Mais au Royaume-Uni, 2500 personnes se sont portées candidates aux tests pour les vaccins. Les autorités médicales ne cachent pas leur intérêt pour cette méthode. Le reportage à Londres de Richard Place.
Cette jeune londonienne a très mal vécu le confinement en début d'année. Enfermée chez ses parents, elle avait peur de les contaminer et elle se sentait complètement impuissante. Alors en juin, quand elle voit une annonce sur Facebook pour recruter des volontaires afin de faire avancer la recherche, elle n'hésite pas, elle s'inscrit.
I am quite terrified.
Je suis terrifiée. Je suis inquiète à cause de possibles effets secondaires. Donc j'espère qu'ils vont prendre soin de moi.
Si ce test devait avoir lieu, Danica se verrait d'abord inoculer un vaccin et 2 semaines plus tard, le virus. Elle resterait ensuite en observation 1 voire 2 mois et bénéficierait bien sûr d'un suivi régulier. C'est l'organisation américaine One Day Sooner qui l'a recrutée, une association à but non lucratif et qui n'est pas financée par l'industrie pharmaceutique, clame Abi Rohrig. Il est lui-même volontaire, directeur de la communication et pas surpris des dizaines de milliers de réponses qu'ils ont reçues.
Parce que nous avons vu d'immenses actes de générosité pendant cette pandémie. Les professionnels de santé se présentent tous les jours au travail avec le risque de contamination. La même logique s'applique à nos bénévoles. Ils sont nombreux à être prêts à risquer leur vie pour le bien de l'humanité.
Si Danica a fait ce choix, ce n'est pas pour l'argent. Elle ne sait d'ailleurs pas du tout combien elle pourrait toucher. C'est uniquement, dit-elle, pour se sentir utile.
Richard Place à Londres pour France Culture. Aux États-Unis, l'Agence des médicaments a fixé hier des critères plus stricts que ceux désirés par la Maison-Blanche pour approuver en urgence tout futur vaccin contre le Covid-19, rendant improbable toute autorisation avant la présidentielle du 3 novembre prochain. C'était pourtant une promesse de Donald Trump, candidat à sa réélection. Le président américain, toujours malade du Covid-19, a par ailleurs mis brutalement fin hier aux négociations avec les démocrates sur de nouvelles aides aux ménages et aux entreprises affectées par la pandémie de coronavirus. Donald Trump veut attendre un second mandat pour aller plus loin sur la question. Il accuse les démocrates au Congrès ainsi que la gauche radicale de ne pas négocier de bonne foi. Cette décision a immédiatement fait chuter Wall Street qui a clôturé dans le rouge car de nombreux Américains, dont ceux qui sont au chômage, mais aussi des entreprises en difficulté comme les hôtels ou les compagnies aériennes vont être confrontés à des difficultés financières supplémentaires dans les prochaines semaines. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a accusé Donald Trump de leur avoir tourné le dos. Des questions sans nul doute abordées ce soir à J-27 de la présidentielle avec un débat télévisé organisé à Salt Lake City dans l'Utah entre les colistiers des présidentiables. Le républicain Mike Pence se retrouve face à la démocrate Kamala Harris. L'occasion peut-être de vous faire découvrir une jeune femme de 43 ans, Karine Jean-Pierre, la directrice de campagne de la sénatrice californienne, ex-conseillère d'Obama, noire, lesbienne et francophone. Elle est sans aucun doute l'une des figures montantes du Parti démocrate. Son portrait à Washington, signé Gregory Phillips.
Aux États-Unis, on prononce Karine Jean-Pierre est née en Martinique, de parents haïtiens, arrivée aux États-Unis à l'âge de 5 ans. Sur PBS, en novembre 2019, elle raconte ce que son père et sa mère lui ont appris.
Ils sont venus ici pour le rêve américain. Ils ont parfois encore des fins de mois difficiles. Mais dans leurs yeux, parce que j'ai réussi à la Maison Blanche, parce que leur fille est allée à Columbia, ils ont réalisé ce rêve. Grandir avec eux m'a rendue tellement plus forte.
Le parcours brillant de Karine Jean-Pierre débute à l'Université Columbia de New York. En 2008, à 31 ans, elle intègre la campagne de Barack Obama et une fois élue, celui-ci la nommera directrice des affaires politiques régionales à la Maison Blanche. Ensuite, Karine Jean-Pierre rejoint l'organisation Move On, devient éditorialiste télé sur MSNBC et parfois Fox News. Et au printemps 2020, Joe Biden, qui connaît ses qualités de stratège, la nomme parmi ses principaux conseillers. Elle va aussi diriger la campagne à la vice-présidence de Kamala Harris. À 43 ans, Karine Jean-Pierre sait pourquoi on est venu la chercher. Elle est jeune, brillante, noire, mariée à une journaliste de CNN, mère d'une petite fille de 5 ans, écologiste, végétarienne et moderne, Karine Jean-Pierre incarne tout ce que n'est pas Joe Biden.
De nouveaux bombardements cette nuit à Stepanakert, la capitale de la République autoproclamée du Haut-Karabakh, où vivent près de 55 000 personnes, une ville ciblée par les forces de l'Azerbaïdjan.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Pour Amnesty International, ce procès pourrait marquer un tournant dans la lutte contre les crimes de haine.
Et plus largement pour le mouvement antifasciste aujourd'hui en Europe, la Cour pénale d'Athènes doit donner son verdict aujourd'hui dans le procès fleuve du parti néo-nazi Obdoré, accusé d'être une organisation criminelle. Son chef et une soixantaine d'autres accusés du parti ont été jugés pendant 5 ans et demi. Les enjeux décryptés à Athènes par Angélique Coronis.
La question n'est pas de savoir si l'assassin de Pavlos Fissas, le rappeur de 34 ans poignardé par un membre du parti qui a avoué en septembre 2013, sera condamné. Il le sera, de l'aveu même de la défense. La question est de savoir si l'ensemble du groupe parlementaire d'Obdoré, tel qu'il a été élu en 2012, sera condamné en tant qu'organisation criminelle, ce qui signifiera d'une part la fin de cette nébuleuse meurtrière, mais surtout impliquera la condamnation automatique de tous ses dirigeants à des peines allant de 5 à 15 ans de prison. enferme. Une première selon Lucas Tamelos, activiste antifasciste.
C'est la première fois qu'un parti nazi est jugé par un tribunal européen après le procès de Nuremberg. La différence est que le procès de Nuremberg était un tribunal militaire imposé par les vainqueurs d'une guerre. Là, nous avons une poursuite pénale dans un pays démocratique en temps de paix.
Pour Lucas, ce procès a façonné la société grecque.
Bien que dans l'ensemble, la société n'ait pas suivi le procès, désormais, elle sait qu'une décision va tomber et il est clair que la majorité des gens estiment qu'un acquittement du chef d'inculpation d'organisation criminelle serait inacceptable.
Ce que les avocats de la partie civile et le mouvement antifasciste grec espèrent, c'est que ce verdict fasse jurisprudence, d'où la mobilisation et les arrêts de travail de tous les syndicats annoncés pour ce matin.
Au Mali, des dizaines de djihadistes sont sortis de prison ces deux derniers jours. En échange, on évoque avec insistance la libération de deux otages, dont la Française Sophie Pétronin, enlevée il y a bientôt 4 ans. Son fils est arrivé hier après-midi à Bamako. Les députés ont donné leur accord à la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes pour sauver la filière de la betterave sucrière. Cet insecticide qui tue des abeilles, mais qui permet aux agriculteurs de protéger leur récolte de la jaunisse. Le texte a donc été adopté hier soir avec un vent de révolte sur les bancs de La République en marche. On y revient dans le journal de 7h30. La mort à présent d'un des plus grands guitares héros de l'histoire du rock, Eddie Van Halen, est décédé hier à l'âge de 65 ans des suites d'un cancer. Il était bien sûr le guitariste et commandeur en chef du groupe de hard rock Van Halen, très actif dans les années 80. On retiendra bien sûr son tube.
Mais vous aimez Catherine Dutube, Van Halen, vous ?
Écoutez, je reconnais que c'est une ligne mélodique en tout cas qui a été bien travaillée, qui résonne jusque dans le stade Vélodrome à Marseille. Enfin Guillaume, c'était dans tous les cas l'un des succès du groupe Van Halen formé par Eddie et son frère Alex en Californie au début des années 70, adulé aux États-Unis, connu aussi pour ce solo de guitare. Eruption en concert en 86,
voilà,
à Leuven, je
bien,
préfère,
voilà.
Effectivement.
Voilà. Dites-le.
Eddie Van Halen, talentueux guitariste donc, est mort à l'âge de 65 ans. Dans un tout autre genre musical, le chanteur américain de reggae et de pop Johnny Nash est mort à l'âge de 80 ans, premier non-jamaïcain à enregistrer du reggae à Kingston. Il était surtout connu pour ce titre « I Can See Clearly Now ». Johnny Nash nous a quittés à l'âge de 80 ans. I Can See Clearly Now avait été repris par Jimmy Cliff ou encore par Claude François en France sous le titre de Toi et le Soleil. Vous vous en souvenez, Guillaume ?
Bien sûr.
Du Soleil, un petit peu tout de même.
Je me souviens aussi du Soleil, mais ça fait longtemps.
Pour le temps donc de ce mercredi 7 octobre, partagé entre nuages, quelques éclaircies et des averses au meilleur de la journée. Il fera entre 13 et 17 degrés sur la moitié nord du pays, compté de 19 à 27 au sud.